Chapitre 2. Seldon soupira en grimpant à bord de l'un des glisseurs rangés côte à côte dans leur large alcôve. À peine quelques années plus tôt, il se glorifiait de parcourir à pied les interminables couloirs de la bibliothèque, en se disant que, même la soixantaine passée, il en était encore capable. Mais à présent qu'il était septuagénaire, ses jambes se fatiguaient trop vite, et il en était réduit à emprunter un glisseur. Les jeunes les prenaient par facilité, mais Seldon le faisait par obligation. Et c'était là toute la différence. Après avoir pianoté sa destination, Seldon ferma un contact et le glisseur s'éleva de quelques millimètres au-dessus du sol. Puis l'engin démarra avec une certaine lenteur, en douceur et en silence, et Seldon se cala contre le dossier pour regarder défiler les murs, les autres glisseurs, les rares piétons. Il doubla un certain nombre de bibliothécaires et sourit en les voyant. Ils constituaient la plus ancienne guilde de l'Empire, celle dont les traditions étaient les plus respectées, et ils restaient attachés à des coutumes instaurées des siècles pour ne pas dire des millénaires plus tôt. Ils étaient vêtus de toges soyeuses blanc cassé, presque aussi amples que des robes, fermées au cou et s'évasant vers le bas. Comme sur bien d'autres planètes, la population masculine de Trantor hésitait entre pilosité faciale et visage glabre. Dans la plupart des secteurs, les Trantoriens étaient rasés de près et l'avaient toujours été du plus loin qu'Harry se souvienne, à l'exception des Dalits qui portaient la moustache, comme son fils adoptif, Raish, par exemple. Les bibliothécaires, en revanche, tenaient à leur barbe héritée d'un lointain passé. Chacun d'eux arborait un petit collier de barbe taillé avec soin, assez court, et laissant dégager la lèvre supérieure. Ce détail à lui seul suffisait à les distinguer. D'ailleurs, Seldon se sentait mal à l'aise avec ses joues imberbes quand il se retrouvait isolé au milieu d'eux. À vrai dire, leur caractéristique la plus remarquable était la coiffe qu'ils arboraient en permanence, et qui sait, jusque durant leur sommeil, imaginait Seldon. Carrée, elle était constituée de quatre pans taillés dans une sorte de velours réuni par un bouton au sommet. Ces calots existaient dans toute une variété de couleurs, et apparemment, chacune avait sa signification. Les familiers des usages de la bibliothèque reconnaissaient à la couleur de son calot l'ancienneté de son porteur, sa spécialité, ses diplômes et ainsi de suite. Les couleurs permettaient d'établir un ordre de préséance. Chaque bibliothécaire savait, d'un simple coup d'œil au calot de son vis-à-vis, s'il devait se montrer respectueux et à quel degré, ou autoritaire et à quel degré. La bibliothèque galactique était le plus vaste édifice de Trantor, et peut-être de toute la galaxie, plus vaste même que le palais impérial. Elle avait jadis brillé et resplendi, comme si elle se glorifiait de sa taille et de sa magnificence. Pourtant, au même titre que l'Empire, elle avait pâli, dépéri. Elle faisait penser à ces vieilles douairières qui continuent à porter les atours de leur jeunesse, mais sur un corps désormais marqué de rides et de caroncules. Le glisseur s'immobilisa devant la porte décorée du bureau du chef bibliothécaire. Seldon descendit. Las Zenao sourit en accueillant Seldon.
« Bienvenue, mon ami !»
dit-il de sa voix aiguë. Seldon se demandait s'il avait été ténor dans sa jeunesse, mais il n'avait jamais osé lui poser la question. Le bibliothécaire en chef restait en toutes circonstances la dignité incarnée, et une telle question aurait pu paraître blessante. « Salutations !» répondit Seldon. Zenao avait une barbe grise, plus qu'à moitié blanche, et il portait un calot d'un blanc immaculé. Cela, Seldon le comprenait sans qu'on le lui explique. C'était un exemple d'ostentation à rebours. La totale absence de couleur symbolisait le summum de la position hiérarchique. Zenao se frotta les mains, débordant visiblement de jubilation intérieure.
« Je vous ai appelé, Harry, parce que j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous l'avons trouvé. Je suppose là ce que vous voulez parler d'une planète convenable. Vous en cherchiez une qui soit éloignée. Je crois que nous avons localisé le monde idéal. »
Son sourire s'élargit.
« Faites confiance à la bibliothèque, Harry. Nous trouvons toujours tout. »
« Je n'en doute pas, Alas. Mais parlez-moi de ce monde. Eh bien, laissez-moi vous montrer d'abord où il se trouve. Un pan de mur coulissa, l'éclairage diminua, et la galaxie apparut en trois dimensions, tournant avec lenteur. Comme tout à l'heure, des traits rouges délimitaient la province d'Anacréon, au point que Seldon aurait presque pu jurer que l'épisode avec les trois hommes avait été une répétition de cette scène. Puis, une tache d'un bleu éclatant apparut à l'autre extrémité de la province. « C'est là, » dit Zenao. « La planète idéale. De bonne taille, riche en eau, une proportion convenable d'oxygène dans l'atmosphère et de la végétation, bien sûr, un biotope marin varié. Il n'y a qu'à se pencher pour la prendre. Ni remodelage, ni terraformation, du moins qu'il ne soit réalisable quand elle sera habitée.
Elle est inoccupée pour l'instant, Las ?
Absolument. Pas le moindre habitant.
C'est étonnant pour une planète si accueillante.
Je présume que si vous avez un tel luxe de détails, c'est qu'on l'a déjà exploré. Pourquoi ne l'a-t-on pas colonisée ?
Elle a été explorée par des sondes automatiques. Il n'y a pas eu de colonisation, probablement parce qu'elle est trop loin de tout. La planète tourne autour d'une étoile beaucoup plus éloignée du trou noir central que toute autre planète habitée.
Trop distante, je suppose, pour d'éventuels colons. Mais, j'imagine, pas encore assez pour vous. Comme vous dites, plus elle sera loin, mieux cela vaudra.
Oui. Seldon hocha la tête. Et je continue de le dire. A-t-elle un nom ou simplement un numéro matricule ?
Croyez-le ou pas, elle a un nom. Ceux qui ont envoyé les sondes l'ont baptisé Terminus, un terme archaïque qui signifie « le bout de la ligne », ce qui semble une définition adéquate.
Ce monde appartient-il au territoire de la province d'Anacréon ?
Pas vraiment. Si vous étudiez attentivement le trait rouge et le dégradé de même couleur, vous remarquerez que le point bleu de Terminus est situé légèrement à l'écart, à 50 années de lumière en fait. Terminus n'appartient à personne. Elle ne fait même pas partie de l'Empire.
Alors vous avez raison, Las. C'est la planète idéale que nous cherchions.
Bien sûr,
observa Zenao, songeur.
Une fois que vous aurez occupé Terminus, j'imagine que le gouverneur d'Anacréon la revendiquera comme soumise à sa juridiction.
C'est possible. Mais c'est un problème que nous réglerons quand il se présentera.
Zenao se frotta de nouveau les mains.
Quelle splendide idée ! Installer un immense projet sur un monde entièrement vierge, lointain et isolé, afin de constituer au fil des années et des décennies une gigantesque encyclopédie de l'ensemble du savoir humain. La quintessence de ce qui existe dans cette bibliothèque. Si seulement j'étais plus jeune, je me serais joint à l'expédition.
« Vous avez presque 20 ans de moins que moi, » observa Seldon avec tristesse.
Presque tout le monde est bien plus jeune que moi,
songea-t-il encore plus tristement.
Ah, c'est vrai, dit Zenao. J'ai appris que vous veniez d'avoir 70 ans. J'espère que vous avez fêté cet anniversaire comme il convient.
Seldon tressaillit. Je ne célèbre pas mes anniversaires.
Oh, mais si! Je me souviens encore de ces fameuses festivités à l'occasion de vos 60 ans.
Seldon sentit l'aiguillon de la douleur le transpercer, comme si la perte de l'être qu'il chérissait le plus au monde était intervenue la veille. « S'il vous plaît, n'en parlez pas. »«
Je suis désolé, » fit Zenao confus.
« Nous allons parler d'autre chose. »«
Si Terminus est bel et bien le monde que vous recherchez, » j'imagine que les travaux préparatoires à votre projet d'encyclopédie vont redoubler. Comme vous le savez, la bibliothèque sera ravie de vous aider de son mieux.
J'en suis conscient, Las, et infiniment reconnaissant. Nous allons effectivement travailler sans relâche. Il se leva, encore incapable de sourire après la vive douleur occasionnée par l'évocation de son anniversaire 10 ans plus tôt.
Je m'en vais donc poursuivre mes travaux.
En sortant, Seldon eut des scrupules de conscience. Las Zenao ignorait tout de ses intentions réelles.